Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, vous avez reconnu la musique d'intro de l'émission de Christian Cailliol, La Bougeotte, et aujourd'hui c'est une spéciale car nous abordons la 50e émission. Bon anniversaire Christian.
Merci Francis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, 50, oui, ça représente quand même pas mal de sorties de mon côté et 50 coins de France différents. Ça fait beaucoup de tourisme, ça fait un enrichissement personnel important pour moi. Et le plaisir aussi de ensuite faire partager avec vous.
Et quand tu t'emploies bien ton slogan bouger en France, c'est que vraiment il y a de quoi faire en France.
Ah ben complètement, entièrement, bien sûr. C'est pour ça que je le dis, bouger mais bouger en France, parce que il suffit de faire 30 km, on change complètement de paysage et on a une richesse, on a un patrimoine très important, inconnu parfois ou peu connu.
Oui, parce qu'on rappelle que les offices de tourisme, c'est super bien, ils nous donnent plein de renseignements, mais des fois, il fallait outre pour voir d'autres choses encore plus belles, différentes, voilà.
Alors là, il faut passer du temps à la maison, il faut faire de la préparation, si on ne veut pas perdre trop de temps sur le terrain. Ça demande pas mal de préparation à l'avance pour être le plus efficace possible sur le terrain, et parce que les renseignements, c'est pas sur place qu'on les trouve, c'est pas... En allant sur la place du village, en demandant j'aime pas faire ça parce que souvent, je me suis rendu compte que quand on demande quelque chose, on nous envoie à l'opposé de ce qu'on cherche.
Alors. Et si on écoute deux ou trois personnes, on n'a pas la même version.
Exactement.
On est d'accord.
Donc voilà, 50 émissions partagées, ça fait beaucoup de choses. 50 endroits différents en France, et je pourrais en faire encore pas mal. On n'a pas fait le tour.
Non, mais on en a encore quelques-unes sous la manche, comme
exactement.
On dit. Par rapport à la vidéo que j'ai vue donc, de cette émission, c'est une alternance entre château, falaise, rando VTT, pour simplifier. Voilà, c'est un petit peu ce qui nous attend aujourd'hui.
Oui, et alors cette fois, tu ne pourras pas dire qu'il n'y a pas de VTT.
Ah ça, je confirme.
Parce que là, en particulier, alors donc je vous amène à la confluence de la Dordogne et de la Vézère, et là, il y a des passages en bord de Vézère, sous des barres rocheuses un peu surplombantes, où on passera de la tête avec les vélos. C'est beau, c'est très beau. Il n'y a pas que ça, bien sûr.
Ouais, mais effectivement, on voit beaucoup de ça sur ta vidéo, et voilà. D'ailleurs, vidéo qu'on rappelle, comment elle s'appelle ?
Elle s'appelle La Belle Vézère.
Voilà. Et on la retrouve sur quel site ?
randovttvideo.free.fr, vous avez l'habitude. Et sur le site Radio Galaxie 31, à la rubrique Nos émissions, La Bougeotte.
D'accord.
Voilà, vous trouvez la vidéo, allez la voir. Comme chaque fois, soyez nombreux. Voilà. Et à me faire un retour sur le site.
Faites pas comme moi je fais jamais de retour. Voilà. Bon, allez.
Donc, alors, comme tu disais en intro, effectivement, ici, les amateurs de beaux sites de tourisme seront attirés d'un côté et de l'autre. Mais comment faire son choix ? D'anciens châteaux ou châteaux romantiques, jardins remarquables, nombreux points de vue, habitats préhistoriques, grottes ornées, balades au fil de l'eau, en canoë ou en gabarre, le choix ne manque pas. Ouais. Mais pour commencer, voici le mien de choix. Je vous amène à Dôme, village templier, un des plus beaux de France, perché sur une falaise assez vertigineuse. Et on pénètre à cette bastide par l'imposante porte des tours qui servit de prison à 70 chevaliers templiers. Voilà pourquoi mon choix se porte sur ça. Après leur incarcération, ils gravèrent sur les murs de nombreux graffitis, certains restant d'énigmatiques messages. En tout cas, les templiers ont laissé des témoignages nombreux de leur passage. Des graffitis énigmatiques et des messages mystérieux, c'est quelque chose qui doit te parler, Francis, ça.
Oui, un petit peu, oui, effectivement. Mais sur nos belles Pyrénées.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, que s'est-il passé ? L'ordre avait été créé en 1129. Et il avait pour but, tout le monde le sait, la protection des pèlerins sur les routes de Jérusalem. L'ordre a pris part à de nombreuses batailles lors des croisades et de la reconquête. Grâce à l'afflux de dons, l'ordre crée à travers toute l'Europe de nombreuses commanderies. Il devient précurseur dans l'utilisation de billets payables de place en place sans avoir déplacé les fonds. Ça, c'est novateur et très important. Alors ça a contribué aussi à ce que cet ordre devienne à la tête d'une fortune colossale dont les principaux financiers, c'est la noblesse et tous les rois d'Europe, en particulier le roi de France, et qui leur devait beaucoup. L'ordre devient un état dans l'état, une véritable puissance gigantesque, énorme, internationale, et qui finit par gêner Philippe le Bel. De là à décider à s'en enfranchir, en convoitant surtout leurs richesses, il n'y a qu'un pas qui fut vite franchi. Un mois avant son action, Philippe le Bel avait donné l'ordre à tous les sénéchaux et baillis d'arrêter massivement tous les chevaliers du temple, on parle de 300 à 500, et de saisir tous leurs biens, sous l'accusation d'hérésie, de sodomie et d'idolâtrerie, avec comme instruction surtout ne rien divulguer avant vendredi 13 octobre 1307, d'où la fameuse superstition liée à ce non moins fameux vendredi 13. Le pape Clément V, qui était à l'origine de la création de cet ordre, protecteur donc depuis la création de l'ordre, se montre hésitant au début, sceptique, lent à réagir, et puis le lâchera malgré une faible protestation qui restera sans effet. Les interrogatoires sont menés par l'Inquisition. Pas bon ça, hein ?
Oh non.
Avec l'emploi de torture, en particulier le chevalet. C'est pas un truc pour poser les affaires, un chevalet, c'est une sorte d'écartèlement. Et puis l'estrapade, dislocation des épaules. Ça fait mal au rhumatisme.
Oui, là, qu'est-ce que tu veux, là, t'avoues tout. Hein.
Et la brûlure des pieds, des plantes de pieds. Les déclarations d'innocence sont rares. Rien que sur Paris, 36 d'entre eux mourront sous la torture. Leur grand maître, Jacques de Molay, mourra sur le bûcher en 1314, après avoir lancé au roi et à sa descendance capétienne, « Maudit, maudit, soyez maudit !» Point de départ de la saga des rois maudits, mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Revenons dans la vallée. Elle est aussi appelée « Vallée de la préhistoire ». Pas moins de 15 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, où depuis 400 000 ans, les hommes ont trouvé refuge. Cette vallée nous ramène à nos origines. Ici, nous faisons un voyage qui nous remplit d'émotions. Le site le plus connu, c'est la grotte Lascaux. Attention, vous visitez une réplique, malgré tout. Et puis les photos sont interdites. En ce qui me concerne, zéro émotion.
Pourquoi ?
Tu vas comprendre. Personnellement, la présence d'un public nombreux, la visite d'un fac-similé, ne me convient pas du tout. Par chance, il est encore possible de nos jours de faire différemment. De toutes ces merveilles, si vous ne deviez en retenir qu'une seule, choisissez la grotte Fond de Gomme. Une sorte de tunnel, 125 mètres de long pour une largeur de 2 à 3 mètres. Plus de 200 véritables peintures polychromes uniques vous transportent à l'âge magdalénienne. Mammouth, bison, qui domine, comme dans la plupart des grottes d'ailleurs, hein. Chevaux, rennes, lions, loups. Ici, pas de spot. Un petit groupe de 6 à 7 personnes accompagnées par un guide qui murmure les explications et donne l'impression d'être dans une chapelle. La visite se poursuit dans le plus grand silence. On ose à peine respirer pour mieux apprécier les œuvres de nos ancêtres artistes. Le ressenti est tout autre. Et le souvenir restera incrusté en nous. Voilà l'explication de la question que tu me posais. Pourquoi zéro sentiment, zéro émotion dans une réplique de grotte ?
Et là, rappelle le nom de la grotte.
Alors moi, je vous conseille donc Fond de Gomme. Hein. Il y a aussi la grotte des Combarelles, un autre sanctuaire, 240 mètres de long, orné de plus de 800 gravures, dessins de la faune du Quaternaire, largement enchevêtrés les uns les autres. Les chevaux dominent, mais il y a aussi des bisons, des aurochs, des bouletins, lions, rennes, rhinocéros, mammouths, et aussi des figures anthropomorphes, c'est-à-dire des représentations humaines schématiques, et des signes tectiformes, c'est-à-dire des points en forme de toit. Les visites sont très limitées, pas de réservation. Il faut se présenter bien une heure avant l'ouverture pour avoir un billet d'entrée. Maximum 80 auront cette chance par jour. Oui, c'est un peu embêtant, mais ça se mérite aussi un peu. Sachez que il y a parmi tout ce public nombreux étrangers, preuve qu'un tel voyage dans le temps est apprécié dans le monde entier. Les peintures et les gravures ne sont pas datées précisément. L'étude des objets, des pierres taillées présentes dans les grottes et la comparaison des différents autres sites permet d'estimer leur âge. Lascaux, c'est 17 ou 18 000 ans. Fond de Gomme, Combarelle, 13 000 ans. C'est la période du Magdalénien. Avant notre ère. Hein. Fond de Gomme a toujours été libre d'accès. Il est fort probable que Néandertalien et homo moderne s'y soient croisés. Les peintures n'ont été découvertes qu'en 1901. Idem pour Combarelle. Lascaux, l'entrée était bouchée. Il aura fallu qu'un chien s'enfonce dans un trou pour suivre un lapin, sous le regard de trois adolescents qui chassaient en 1940. Ils y reviendront faire la découverte des magnifiques peintures. Il y a un instant, je viens de parler de l'époque magdalénienne. C'est quoi ? Ici en Dordogne, à Tursac, au pied d'une falaise, des chasseurs semi-nomades s'y étaient installés dans un site idéal qui sera découvert en 1863. L'abri sous roche de la Madeleine. De nombreux outils en silex ou bois de renne, ornés de gravures d'animaux, seront mis à jour. Et le plus extraordinaire, c'est une gravure de mammouth sur un morceau d'ivoire. Les archéologues vont associer le nom de la Madeleine à cette culture de cette époque. Il s'agit de la dernière période du Paléolithique, allant en Europe de 17 à 12 000 ans. Les chiffres peuvent varier selon les zones géographiques puisqu'on s'attache à une culture. Elle est caractérisée par l'utilisation d'un outillage très diversifié, des grattoirs, perçoirs, burins, lames aussi bien en silex qu'en ivoire et en os. Et surtout par la grande maîtrise des productions artistiques. De très nombreuses grottes ornées de la même époque sont connues en France ou à l'étranger. Altamira en Espagne, c'est une des plus belles. On visite aussi un facsimilé, attention. Niau en Ariège, là ce sont les vrais. Aller à Niau, ici Midi-Pyrénées, on est juste à côté, ce sont les vraies peintures. D'autres très connues, mais aussi qui sont de période plus ancienne. Pêche-Merle, c'est 20 000 ans, on est dans le magdalénien ancien. Et encore plus ancienne, la grotte Chauvet, grotte du Pont d'Arc. Elle a été occupée pendant l'Aurignacien, en référence à la grotte d'Aurignac, à quelques dizaines de kilomètres de la radio. Là, on est entre moins 43 et moins 35 000 ans, c'est l'époque de Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon. Beaucoup plus loin, c'est la période du Moustérien, qui remonte à moins 350 000 ans. Elle est caractérisée en Europe par Néandertal, l'homme de Néandertal. Celui-ci a laissé, entre autres, des peintures rupestres en Espagne d'empreintes de mains qui ont été datées à moins 65 000 ans. Certainement les plus anciennes peintures actuellement connues. On a des réalisations du Magdalénien beaucoup plus anciennes, par exemple dans une grotte qui n'est pas ouverte au public à côté de Bruniquel, dont je tairai le nom. Et là, on parle de moins 180 000 ans. Par exemple, ce sont des amas néandertal anciens, c'est même pas néandertal traditionnel, néandertal ancien, moins 180 000 ans, a, dans des salles, récolté ou cassé 350 stalagmites qui sont posées en cercle. Il y a deux cercles concentriques faits de 350 morceaux de stalagmites faits par Néandertal. Une signification inconnue. Pour l'instant, c'est les scientifiques, les spécialistes qui ont accès à cette grotte qui n'est pas ouverte au public, bien sûr. D'accord. Revenons dans notre région, et cette fois de nos jours. Les vallées de la Dordogne et de la Vézère offrent de nombreux points de vue, souvent à immortaliser. Alors en peinture ou en photo, au choix, de préférence allez-y le matin. Alors le top c'est quand vous y arrivez, et c'est souvent que ça arrive. Vous avez le brouillard qui se déchire et qui dévoile le paysage, ça tombe par terre. Alors vous avez au village de Dôme, on vient d'en parler, il y a le fameux belvédère sur la Dordogne. En remontant cette même vallée, proche de Vitrac, au pied du magnifique château de Montfort, un balcon domine un cingle bien connu. Et puis la côte de Jorre. Alors là, vous plongez sur Saint-Léon-sur-Vézère. Ou encore, au jardin de Marquessac. Là, en vous dirigeant à la pointe de l'Éperon Rocheux, c'est un panorama inoubliable. Enfin, pour terminer, le point de vue de la tour du château de Bénac, véritable forteresse qui se mire dans la Dordogne. Et puis vous en découvrirez certainement de nombreux autres au cours de vos visites. Sortons un peu des chemins battus. Allez aux cabanes du Breuil. À l'origine, un gros tas de pierres, où il n'y avait ni eau ni électricité. Et puis une histoire familiale depuis 50 ans sur trois générations qui se sont succédées pour sauver ce patrimoine. Une douzaine de cabanes de pierres sèches, datées du 19e au début du 20e, forment un petit village. Ici, les voûtes sont en encorbellement, c'est-à-dire que chaque pierre avance l'une par rapport à l'autre qui se trouve en dessous. Et non pas comme on a souvent des voûtes en plein cintre, avec la pierre centrale qui bloque le cintre. Les toits sont bâtis de lauze. Les cabanes parfois sont accolées deux par deux. C'est un lieu chargé d'histoire et on imagine la vie des grands-parents, du propriétaire et puis aussi bien avant. C'est un décor de cinéma D'ailleurs, plusieurs films y ont été tournés. Et au milieu de tout ça, se balade un troupeau d'oies. Alors c'est beau, voilà. C'est simple, mais allez-y, c'est beau.
Et les oies, c'est méchant.
Non, celles-là, elles sont habitées au public. Hein.
Ah, ça va.
Cherche pas. Hein.
Bon.
Bon, non, non. On peut passer, même les enfants, il n'y a pas de souci. Je change complètement, mais toujours on est entre le calcaire et la Vézère. Voici le plus grand siphon du monde. Siphon, je n'explique pas, tout le monde le connaît.
Respire, je ne me souviens plus. Combien de chiottes hein. Et quoi hein.
C'est ça. Alors, bon, un gentil ruisseau, le Colli, prend sa source à la Cassagne et se jette dans la Vézère après quelques kilomètres. Une belle vasque de 30 mètres, d'une profondeur de 9 mètres, sort la doue de Colli. Le débit moyen n'est pas extraordinaire. Entre 1 mètre cube seconde en moyenne, il peut chuter à 50 litres seconde à l'étiage, c'est relativement faible, même si en crue ça dépasse 5 mètres cubes seconde. Par comparaison, Fontaine-Vaucluse, on en a parlé il y a quelque temps dans une autre émission, c'est 23 mètres cubes seconde, avec des pics à 90 mètres cubes seconde. C'est autre chose. Ce petit débit ne le rend pas ce siphon moins intéressant. Les plongeurs vont commencer à s'y intéresser à la fin des années 50, réalisant de minimes progressions. En 1991, attention, une équipe suisse atteint 4 255 km de réseau noyé grâce à l'utilisation de recycleurs d'air et de propulseurs électriques. Alors, vous allez me dire, pourquoi tout ce matériel ? Eh bien, parce que la plongée dure 15 heures. Aller-retour, faire le chemin, revenir et faire la décompression. 15 heures. Donc, avec les propulseurs, ça va un peu plus vite. Et avec ces recycleurs d'air, on porte moins de bouteilles sur le dos. Ça évite aussi de faire des transports aller-retour de bouteilles relais. 1991, quelques années plus tard, ce seront les plongeurs allemands qui vont porter le terminus à 6 km. Sans toutefois atteindre la partie exondée. On est encore profond. La topographie présente une galerie d'entrée sensiblement horizontale, de belles dimensions. À 400 mètres, un puits vertical descend à moins 60. La galerie reste de belles dimensions jusqu'au fond, sur plusieurs kilomètres. La profondeur varie entre moins 60 et le fond, moins 28. Et après, point d'interrogation. Alors, c'est pas le plus long siphon du monde, c'est peut-être pas le plus long de France, mais quand même, c'est un sacré morceau. En surface, le bassin versant draine 169 km². Il y a été exploré de nombreux gouffres qui crèvent la surface, totalisant 30 km de galeries topographiées. Mais aucun n'arrive à jonctionner le réseau noyé, même si on peut penser qu'il doit bien y avoir une cavité qui donne accès au collecteur. L'exploration serait quand même plus simple. Mais qui le trouvera et surtout quand ? Mystère.
Et là, rappel, on parle du réseau de...
Ça s'appelle la doue de Colli. Voilà. Une autre histoire d'eau. La Vézère a été utilisée, depuis longtemps, comme voie de communication. À une époque où le réseau routier était pratiquement inexistant, et franchement, c'était le seul axe envisageable. Les Romains avaient déjà essayé de rendre la rivière navigable, mais c'est après la Révolution que la batellerie s'est surtout développée. Des travaux d'aménagement étaient prévus avec comme objectif de la rendre navigable toute l'année, ne sera jamais achevé. La principale partie utilisée de la Vézère se fera seulement que sur une dizaine de kilomètres, en amont de la confluence avec la Dordogne. Pourtant, il n'aurait pas manqué grand-chose pour parvenir au but. Au XVIIIe siècle, les gabarres, à faible tirant d'eau, remontaient sur 60 kilomètres pour échanger essentiellement du blé et du sel. Il fallait faire travailler les bœufs depuis le chemin de halage. Et justement, le chemin de halage, on y passe en VTT. Par exemple, sur ma vidéo, vous verrez des images.
Ouais, qui sont très exceptionnelles, qui sont belles.
Merci.
C'est magnifique, non, c'est vrai.
Le principal obstacle, c'était quand même de devoir changer de rive assez souvent. Ça, c'était embêtant.
Je te coupe, mais pour toi, c'est bien. Mais pour moi, qui suis grand, je pense que je me serais souvent cogné la tête en VTT.
Tu aurais pris les virages plus larges.
Peut-être, oui.
En 1825, un ingénieur propose d'aménager la Vézère jusqu'à Brive, en échange de la jouissance de perpétuelles taxes. Hélas, même si les résultats ne furent pas complètement nuls, de multiples oppositions, en particulier les propriétaires terriens, contribueront à freiner ce projet. En 1833, le péage du siège du syndic des bateliers comptabilise 15 600 quintaux de marchandises à la descente provenant de la montagne avec les fortes eaux, en particulier des mérins, des feuillards, charbon de bois et minerais de fer surtout. À la remontée, beaucoup moins. On était à moins de 2000 quintaux. Et la preuve que de ce minerai de fer qui passait par la Vézère, les forges des Zézis ont coulé, à cette époque-là, 500 quintaux d'acier par jour. Voilà, ça montre que le trafic était quand même important. Seulement l'amélioration du réseau routier, la création de ponts, le développement impitoyable du chemin de fer, comme à beaucoup d'endroits, firent chuter le trafic à la fin du 19e siècle. Il n'y avait plus que quelques gabarres. La dernière, c'est sa toute activité en 1937. De nos jours, les nostalgiques peuvent toujours aller à Terrasson. Il est possible de faire une balade en gabarre à la découverte de la vallée et du métier, ou au choix de descendre tranquillement en canoë. Mais là, il vous faut pagayer, pagayer.
C'est pas plus mal. Ça fait les bras.
Exactement. On peut se mouiller aussi parfois.
Ah, tout à fait.
Un peu d'art brut. Maintenant, vous êtes habitué à mes escapades insolites. En voici une de plus, à Sarlat. Depuis 40 ans, Pierre Chamoukine, c'est un homme hors du commun, un surdoué de peinture. À 17 ans, il exposait déjà dans les plus grandes villes d'Europe, et même à Milan, Marrakech, Vienne, à 17 ans. Depuis 40 ans, il crée et expose près de Sarlat, dans un bois, à lui, plus de 500 objets d'art singuliers. Son monde, il l'appelle Gorodka, en russe, petite ville. La végétation commence à prendre le dessus, elle gagne. Actuellement, on peut dire que c'est un peu à l'abandon quand même. Hein. Pour le sauver, il a bien imaginé d'en faire un village de jeunes artistes, un lieu de séjour, d'exposition, pas encore gagné. Ce village, ne le cherchez pas sur la carte. Il n'existe pas géographiquement, Gorodka n'existe pas. Mais Pierre Chamoukine, vous allez le trouver. Tout ça est bien réel, ce n'est pas un rêve, même si les œuvres sont souvent insolites, oniriques et pas simples à raconter. Par exemple, le parking, un conseil, un avertissement imagé, c'est lui qui le donne. Sur le panneau, ne vous garez pas n'importe comment. Et à côté, une voiture est plantée verticalement dans le sol jusqu'au pare-brise. Vous avez compris? Faites attention. Voilà. En dehors de ça, cet homme est charmant. Il vous recevra gentiment, il vous fera visiter. C'est un peu spécial. Après 4 années, vous commencez à connaître le principe de cette émission. J'essaie de vous proposer un tourisme un peu différent. Les nombreux sites touristiques, comme on le disait au début, les sites traditionnels du grand public, historiques troglodytiques, les beaux jardins, les demeures extraordinaires, les villages les plus reculés, tout ce patrimoine culturel exceptionnel, vous le trouverez aisément sans moi. Pour ça, vous avez les offices de tourisme.
Mais si on veut découvrir ce que toi tu as découvert, on va sur ta vidéo déjà. Donc tu rappelles ?
La vidéo s'appelle La Belle Vézère.
Et le site,
c'est en lien sur Radio Galaxie 31 ou sur mon site perso, Rando VTT Vidéo.
Et laissez un commentaire, n'hésitez pas.
N'hésitez pas, et puis vous en trouverez bon nombre d'autres pour toutes les régions de France. Hein.
Ouais, c'est pour ça.
Voilà, toutes les 50 émissions que je vous ai proposées ont la vidéo qui correspond sur mon site.
Donc, allez fouiner, cher auditeur.
Alors, surtout, n'attendez pas autre chose, mais partez découvrir ce Périgord que l'on dit Périgord noir. Voilà, l'émission se termine et ma vidéo se termine aussi. Comme chaque fois, vous ne serez pas étonné de trouver cette belle aquarelle de Nadine faite aux cabanes du Breuil avec les oies. La prochaine fois, le mois prochain, une nouvelle bougeotte qui a pour titre « La mer veille ». Bien entendu, c'est une idée de vacances ou pour préparer l'été. Voilà, en attendant, je vous dis bougez, mais surtout bougez en France.
Ça marche. Merci Christian. À la prochaine.
À la prochaine. Merci.